RFI.
Il est 18h30 à Paris, 15h30 en temps universel, l'heure du grand débat du soir avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique.
Et bonne émission.
Merci. Et dans la continuité de la vôtre, on va évoquer les lois sur l'immigration en France dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Avec cette question ce soir dans le débat du jour, est-ce qu'il faut changer la loi sur l'immigration en France? C'est ce qu'affirme la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Les autorités qui sont sur le grill après l'attentat de Mulhouse le week-end dernier, au cours duquel un passant a été tué au couteau. Hier, un comité interministériel de contrôle de l'immigration s'est tenu. Le suspect de l'attaque est un ressortissant algérien de 37 ans. Il a été condamné pour apologie du terrorisme. Il se trouve sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et son expulsion avait été, à plusieurs reprises, refusée par Alger. Comment expliquer que cet homme n'ait pas pu être mis hors d'état de nuire? Pourquoi les lois immigration se succèdent-elles en France alors que le succès ne semble pas être au rendez-vous? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Anaïs Place, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialisée en droit des étrangers et de la nationalité. Face à vous, Pierre-Henri, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente de l'association France Fraternité, ancien directeur général de France Terre d'Asile. Et notre troisième invité en ligne avec nous, Yves Pasquo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en droit public, expert et consultant en droit et politique migratoire. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Pierre-Henri, un comité interministériel de contrôle de l'immigration. Donc ça, c'était hier. Et ça ne s'était pas tenu en France depuis 2011. Donc
oui.
Quasiment il y a 15 ans. Ça montre que la situation est grave.
Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle de réactiver un comité interministériel de l'immigration qui est un outil qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy? Je n'en suis pas sûr. Je voudrais d'abord vous rappeler que l'arsenal législatif en matière d'immigration a été changé 133 fois. Je dis bien 133 fois dans les 10 dernières années.
Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 133 lois.
Non, ça veut dire que par loi, par décret, par circulaire, on a modifié la loi 133 fois, ce qui devient totalement illisible. Et en réalité, la question de l'immigration obéit à un agenda médiatique,
politique,
qui fait que à chaque fait divers, eh bien, vous avez des politiques qui réclament une nouvelle loi. Donc ça, c'est un considérant permanent depuis bientôt 15 ans. Ce qui pose évidemment problème. Nous allons parler de la relation avec l'Algérie, nous allons parler des OQTF, des ordonnances à quitter le territoire français. Il faut que nos éditeurs sachent qu'il y a une inflation en ce domaine depuis près de 10 ans. Je voudrais simplement vous rappeler que dans les années 2012 à 2017, il y avait environ 70 à 80 000 ordonnances à quitter le territoire français chaque année. Maintenant, nous sommes sur une base de 140 000. Et cette base de 140 000 à 150 000 fait de nous les champions d'Europe de la délivrance d'ordonnances à quitter le territoire.
Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas justifiés?
D'abord, qu'ils ne sont pas justifiés, mais si on compare à nos voisins, qui ne sont pas spécialement laxistes, par exemple l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, eh bien, c'est entre 2 à 3 fois plus d'ordonnances à quitter le territoire. Et j'ajoute que sur ces 140 à 150 000 ordonnances à quitter le territoire, vous en avez 20 à 25 % qui sont illégales, déjà dès le départ. départ, parce que c'est une espèce d'énorme machine qui s'est mise en place et qui n'obéit pas aux règles édictées par le législateur. Vous avez parallèlement des ordonnances à quitter le territoire qui sont adressées à des personnes étrangères qui ne sont pas totalement identifiées quant à la nationalité, quant à l'identité. Et puis, vous avez des ordonnances à quitter le territoire qui sont délivrées vers des personnes dont on sait, dont les pouvoirs publics savent pertinemment qu'on ne peut pas les reconduire, parce qu'on n'a pas de relation avec le pays d'origine. Je pense par exemple à l'Afghanistan, je pense au Soudan, à la Somalie, etc. Et donc, c'est comme ça que vous aboutissez en réalité à une espèce de course à l'abîme, en délivrance d'OQTT, et puis à la fin, évidemment, vous avez toujours un certain nombre de forces politiques qui vont vous dire, mais vous délivrez des ordonnances à quitter le territoire, mais vous ne les exécutez pas.
Yves Pascoe, vous qui êtes expert en politique migratoire, face au plaidoyer de Pierre-Henry concernant ses OQTF, obligation de quitter le territoire français, on rappelle que le suspect de l'attentat de Mulhouse le week-end dernier était sous OQTF. Pourquoi placer 130 000 personnes sous OQTF, comme c'est le cas, 140 000, vous avez dit Pierre-Henry, au risque de simplement renforcer le clivage en France?
Oui, alors en fait, pour répondre et pour compléter ce qui a été dit par Pierre-Henri précédemment, on a un régime des OQTF qui a augmenté. Entre 2017 et 2022, c'est plus 60% d'OQTF qui ont été adoptés contre les personnes. Donc on a aujourd'hui une systématisation de la délivrance des OQTF, y compris à des personnes qui pourraient être autorisées à rester sur le territoire à d'autres titres. Je pense qu'Anaïs Plas sera aussi mieux passée que moi aussi pour parler techniquement, mais la réalité, c'est que l'OQTF, c'est un acte administratif pris par le préfet qui constate l'irrégularité du séjour et que le fait de constater l'irrégularité du séjour par la préfecture est aussi soumis à un contrôle du juge qui, lui, peut mener à l'annulation aussi de cette décision de placer la personne sous OQTF. Et en fait, le fait que l'augmentation du caractère quasiment systématique ou automatique des OQTF se soit installé dans ce pays depuis plusieurs années, a aussi augmenté de manière significative le taux d'OQTF qui est pris par les préfectures et aussi le taux d'erreur. Et en fait, on se retrouve dans une machine où on délivre des OQTF. Certaines, une grande partie, peuvent être contrôlées par le juge et annulées, et d'autres ne peuvent être exécutées. Et en fait, au bout du compte ou en fin de course, on se retrouve avec une situation où on a un nombre stratosphérique d'OQTF qui sont délivrés et, en miroir, un nombre très bas d'OQTF qui sont exécutés.
Yves Pascoe, je ne voudrais pas qu'on fasse tout le débat sur les OQTF, même si c'est une part importante, mais pardon, il faut changer le thème. Pourquoi l'intitulé ? Pourquoi obligation de quitter le territoire français ? Parce que dans l'opinion publique, ça sonne très fortement quand vous avez encore une fois quelqu'un qui est accusé d'avoir tué au couteau un passant à Mulhouse qui se trouve sous obligation de quitter le territoire français et qui se retrouve pas expulsé, ou dont l'OQTF n'est pas justifié, comme vous le dites, comme dit Pierre-Henry. L'impact est très important.
Oui, mais l'OQTF, c'est un outil de la politique migratoire qui vise à constater que la personne n'est plus autorisée à rester ou à séjourner sur le territoire français. Mais encore faut-il, pour l'éloigner, que cette personne puisse effectivement être reçue dans son pays d'origine. Et dans le cas de l'Algérie, on voit bien que les relations entre la France et l'Algérie se sont considérablement dégradées ces dernières semaines et ces derniers mois, et qu'il y a aujourd'hui une position politique et de relations politiques et diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie qui font que l'Algérie n'a pas souhaité délivrer le laissez-passer consulaire à cette personne-là. J'ajouterai un point. On dit souvent que cette personne-là était algérienne sous OQTF. On oublie de rajouter ce qui est un point relativement important, ce qui n'excuse pas, mais en tous les cas, ce qui est aussi un élément d'explication. Cette personne-là a été diagnostiquée schizophrène, et que si on veut bien aussi prendre la totalité de la situation de cette personne-là, là, c'est, la santé mentale en France est un vrai problème politique, parce que la psychiatrie en France n'a pas bénéficié du soutien suffisant et que les systèmes de psychiatrie en France aujourd'hui sont très défaillants. Et donc, cette personne-là n'était pas non plus accompagnée. Et donc, il y a aussi un problème de santé mentale qui est à accoler à la totalité de la situation malheureuse de Mulhouse.
C'est un manquement supplémentaire. Donc, l'homme était sous OQTF, mais on a bien compris que beaucoup, et la plupart, vous nous dites, des OQTF ne sont pas justifiés. Anaïs Place, il avait été condamné pour apologie du terrorisme, et son expulsion a été à plusieurs reprises refusée par l'Algérie. Mais ça aussi, on peut aussi se poser la question de pourquoi l'Algérie, et qu'est-ce qui fait qu'il est possible qu'un pays puisse refuser une expulsion souhaitée par le pays concerné.
Alors, je me permettrai juste de remettre un petit peu de précision sur les termes, si vous me permettez. L'obligation de quitter le territoire français n'est pas une expulsion. Ce n'est pas exactement la même chose. Les deux sont des mesures d'éloignement, c'est-à-dire qu'on demande à une personne qui est sur le territoire français de le quitter. L'obligation de quitter le territoire français, comme l'a très bien rappelé Yves, elle constate une irrégularité. Donc vous êtes entré sans visa ou vous avez demandé un titre de séjour, vous avez un refus de ce titre ou un refus de renouvellement. Le préfet en tire des conséquences et prend une obligation de quitter le territoire.
On a bien compris qu'elle porte très mal son nom. Mais là, en l'occurrence, c'est une expulsion qui était demandée.
Non, justement, l'expulsion, c'est une mesure qui est spécifique à la menace à l'ordre public. Donc là, quand on parle du cas de Mulhouse, on ne peut pas parler d'expulsion. C'est important parce que la procédure n'est pas du tout la même. Et par exemple, si vous attaquez une obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif, elle est automatiquement suspendue le temps que les juges prennent une décision. Ce n'est pas le cas pour une expulsion parce que justement, on considère qu'il y a une menace. Donc il n'y a pas de suspension automatique. C'est important de distinguer les deux. On ne peut pas dire non plus, je pense, que l'Algérie a refusé l'expulsion. L'Algérie, ce qu'on lui demande, c'est d'identifier une personne. On lui demande de délivrer un laissez-passer consulaire parce que la personne n'a pas de passeport, qu'une personne, quand elle est éloignée du territoire, comme toute personne qui voyage parce que vous passez d'un pays à un autre, donc vous passez une frontière, on va vous demander un document d'identité, un passeport, un document de voyage. Si vous n'en avez pas, pour pouvoir vous faire franchir la frontière, il faut que vous ayez à la place un laissez-passer consulaire. Autrement dit, le pays qui vous reçoit ici, l'Algérie, va dire « oui, effectivement, cette personne est bien un de nos ressortissants ». Ici, l'Algérie n'a pas refusé l'expulsion, elle n'a pas refusé d'accueillir cette personne, elle n'a pas délivré de laissez-passer consulaire.
Est-ce qu'on joue pas sur les mots parce que
ce qui n'est pas exactement la même chose.
Oui, mais l'un provoque l'autre.
Il faut encore identifier la personne. Moi, je ne sais pas si c'est un retard de l'Algérie dans les réponses. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les éléments de réponse, à mon sens, dans ce dossier, pour dire que l'Algérie a fait preuve de mauvaise volonté, ou est-ce qu'effectivement, il prenait le temps d'examiner la situation de cette personne, dont on a dit, par exemple, qu'elle avait des troubles psychiques. L'Algérie peut aussi exercer une protection consulaire pour un de ses ressortissants. Peut-être qu'il avait de la famille en France. Peut-être. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas le dossier sous les yeux.
Bien sûr. Et la nuance est importante. Et le sujet est très politique. Mais Pierre-Henri, je voudrais pas que ce soit trop technique. Alors, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il n'était pas justifié de mettre hors d'état de nuire cette personne ?
Alors, une petite précision encore.
Je vous demanderai d'y répondre.
Oui, oui, mais je vais répondre à votre question. Mais sur les 140 à 150 000 OQTF qui sont prononcés chaque année, on estime que 92% d'entre elles s'adressent à des gens qui ne sont pas dangereux. Par contre, vous avez un certain nombre d'OQTF et d'interdictions du territoire qui peuvent être adressées à des personnes qui ont commis des délits ou des crimes. Et d'ailleurs, depuis 2022, le gouvernement français cible plutôt ces personnes en les mettant dans des centres de rétention administratifs et en faisant une priorité pour l'expulsion.
En l'occurrence, le suspect de Mulhouse avait été condamné.
Oui, il a été condamné, il est passé deux fois en centre de rétention. Il est sorti de centre de rétention parce qu'il y a un certain nombre de règles et il était, a priori, dans une situation de grande précarité. Ça a été souligné tout à l'heure au travers de l'état de la psychiatrie en France. Il n'empêche que, évidemment, que nous sommes fondés à demander à un certain nombre d'États la reprise de leurs sujets dangereux. Mmh. Pour moi, il n'y a pas de problématique autour de ça. Et il est vrai.
Donc en fait, d'un mot, il aurait dû être oui. renvoyé en Algérie.
Oui, il aurait
Mais
dû.
Alors pourquoi il ne l'a pas été?
Il ne l'a pas été parce que l'Algérie a refusé de le D'accord. reconnaître.
La faute à l'Algérie davantage que la France. Oui. La France ne pouvait pas faire davantage.
Je ne pense pas. Okay. Si ce n'est peut-être protéger mentalement, enfin, oui. en termes de santé, cet individu. Mais vous savez, le problème des EQTF ou de la politique d'éloignement ne peut pas être ramené à la seule relation avec l'Algérie. Parce que je rappelle que sur les 140 000, c'est très important, ordonnances à quitter le territoire, il y en a 20 000. Qui concerne des Algériens. Donc, c'est quoi? C'est un septième de la totalité des ordonnances à quitter le territoire qui sont délivrées pour des Algériens. Et pourquoi il y en a 20 000? Ben, tout simplement parce que la communauté algérienne est l'une des plus importantes communautés étrangères en France. Donc, c'est proportionnel. Et on ne va pas régler la question de la politique des éloignement en jouant comme sur un champ de foire et en stigmatisant la relation avec l'Algérie. Pour régler ce problème, il faut y aller porte fermée entre États souverains et pas, encore une fois, en débordant sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Est-ce qu'il faut changer la loi immigration en France? La question qu'on pose ce soir au lendemain d'un comité interministériel de contrôle de l'immigration et cinq jours après cet attentat à Mulhouse dans l'est de la France au cours duquel un passant a été tué au couteau. Mes trois invités sont Pierre-Henri, que l'on entendait, qui est président de l'association France Fraternité, ancien directeur général de France Terre d'Asile, Yves Pascuot, docteur en droit public, expert en consultant en droit et politique migratoire, et Anaïs Place, avocate spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité. Alors, on a tenté d'expliquer ou de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été possible de mettre hors d'état de nuire cet individu. Je voudrais qu'on prenne aussi un peu plus de hauteur sur la loi immigration, puisque c'est le thème de notre débat, et la porte-parole du gouvernement a dit qu'il faut changer la loi. C'est pour ça que je pose la question ce soir. Anaïs Place, Pierre-Henri, dans sa première intervention, a rappelé que l'arsenal législatif a changé 133 fois en France. Il y a eu une loi tous les deux ans depuis 1945. Est-ce qu'il y en a une qui a été satisfaisante et pourquoi il y en a autant?
Alors, je serais bien incapable de vous répondre puisqu'on n'attend jamais d'avoir suffisamment de recul sur une loi avant d'en prendre une autre. Ce qui fait, et alors quand je parle de loi, je ne parle même pas de la réglementation, effectivement, des circulaires qui n'ont pas de valeur réglementaire, etc. Donc concrètement, on est incapable d'évaluer réellement les politiques qui sont menées en matière d'immigration. D'ailleurs, ça a été souligné par le Conseil d'État dans son rapport fait sur la dernière loi immigration, en disant « attention, on n'a même pas eu le temps de voir les effets de la loi précédente que déjà vous réformez une fois encore ». Et c'est très problématique à plusieurs égards. Déjà parce qu'effectivement, on ne peut pas évaluer les effets d'une loi. Elle est systématiquement balayée par une autre. Ensuite, parce que on a aujourd'hui un millefeuille législatif et réglementaire d'une telle complexité que tout le monde s'y perd, y compris les spécialistes, y compris les préfectures elles-mêmes, ce qui explique d'ailleurs aussi le taux d'annulation des obligations de quitter le territoire français, entre autres, mais des mesures administratives de manière générale. Ça a été souligné par la Cour des comptes en février 2024 dans son rapport sur la lutte contre l'immigration irrégulière. La Cour des comptes, elle dit au gouvernement, attention, la complexité des règles et leurs changements incessants, elles ne permettent pas à vos agents d'appliquer justement correctement la loi. De surcroît, on a parlé tout à l'heure, on a rappelé un chiffre, il va rappeler un chiffre, plus 60% d'OQTF. Les effectifs, eux, des préfectures ont augmenté de 9%, avec énormément de vacataires.
16 000 agents qui sont consacrés à ça.
Et on leur demande de la politique du chiffre. On leur dit, mettez des obligations de quitter le territoire systématiquement quand il y a supposément trouble à l'ordre public. Ça veut dire que si à 5 ans, vous avez eu une conduite sans permis parce que vous avez tardé, par exemple, à échanger votre permis de conduire, on vous considère comme étant une menace à l'ordre public, quel que soit... Alors, je vous assure que moi, j'envoie des dossiers comme ça et j'envoie toutes les semaines dans mon cabinet. Donc, les préfectures, on leur demande de faire du systématique, donc c'est ce qu'elles font. Et elles n'ont pas le temps de réfléchir, elles n'ont pas des agents pour le faire. Donc, concrètement, on a une inflation législative et réglementaire, on a une inflation des mesures administratives qui sont prises, on a des tribunaux qui sont engorgés. Donc, on ne peut ni bien gérer l'immigration, ni évaluer les politiques publiques qui sont menées en la matière.
Ça veut dire qu'une bonne loi immigration est impossible en France ?
Je ne crois pas. Je pense qu'il faudrait la faire avec pragmatisme et avec la sincérité qu'il faudrait avoir en allant au plus près du terrain, plutôt que d'être systématiquement dans un parallèle douteux entre immigration, insécurité, immigration, terrorisme, et d'être en réalité toujours dans une proposition qui est purement politique et qui ne cherche pas à améliorer effectivement l'application des règles en la matière.
Mais Pierre-Henri, s'il y a eu autant de lois en quelques années, ça montre la politisation de ce sujet plus que tout autre. Est-ce que c'est possible de le dépolitiser ? Est-ce qu'on peut imaginer un jour une loi immigration qui ne soit pas votée sous le spectre politique ?
Bah, écoutez, moi je suis très attaché à la République et j'ai envie de vous dire qu'une réforme de l'immigration, elle est possible. D'abord en respectant et en faisant fonctionner un véritable service public des étrangers en France. Aujourd'hui, vous avez une administration numérique des étrangers en France qui produit de l'irrégularité. Oui. Je vous le dis, près de 60 000 dossiers sont aujourd'hui en souffrance de gens qui étaient parfaitement en règle sur le territoire français parce qu'ils n'arrivent pas tout simplement à accéder aux préfectures, à prendre un rendez-vous en temps et en heure, alors qu'ils ont un travail, qu'ils sont parfaitement insérés. Donc déjà, parce que le service public, pour moi, c'est l'égalité et que je ne vois pas en quoi les étrangers devraient échapper à cette notion extrêmement importante, républicaine. Ça commence par là. Oui. Et puis ensuite, il faut regarder ce que font nos voisins. Par exemple, nos voisins allemands. Enfin, ils ont 15 millions d'habitants de plus que nous. Ils délivrent 54 000 OQTF à peu près chaque année.
Encore moins de la moitié que nous.
Voilà, un tiers
encore
à moins. Et ils ont.
Et combien sont appliqués ?
Et ils ont un taux de reconduite beaucoup plus important que le nôtre. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont un permis de résidence toléré pour un certain nombre de personnes dont ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas les reconduire ou qu'ils se trouvent dans une espèce de situation hybride. Et donc, ce permis de tolérance, de résidence tolérée est quelque chose qu'il faut aller regarder de près pour faire baisser la pression sur les politiques. Troisième piste sur laquelle on peut travailler, c'est aussi l'aide au retour qui est véritablement un outil utilisé par nos voisins. Je pense notamment à nos voisins espagnols et à nos voisins allemands. Donc, une réforme, elle est possible si on a la volonté de l'élaborer en justice.
Yves Pascoe, est-ce qu'on peut dépoussiérer, entre guillemets, le sujet ? Vous avez entendu les chiffres de Pierre-Henri. Il y a des dossiers qui n'ont pas lieu de se retrouver avec d'autres sur la question de l'immigration. Et ça ralentit l'efficacité de la politique migratoire française. Est-ce qu'il y a une solution à cela ?
La solution, elle résiderait dans une approche dépassionnée du sujet.
Mais est-ce que c'est possible ?
Aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué parce que la réalité, c'est qu'on a fait monter ce sujet à un tel niveau de tension et d'explosivité dans la société sur ces 15 dernières années que parler de manière apaisée de la question migratoire me semble compliqué. Et le problème, il est véritablement là. C'est-à-dire que, grosso modo, chacun convient que la solution pour les questions de migration ne se situe jamais dans « il faut tout fermer » et il faut tout ouvrir. Or, on a un débat politique aujourd'hui qui est polarisé sur ces deux positions, alors que le véritable débat démocratique se fait entre ces deux polarités. Le débat démocratique sur la question migratoire, il est totalement important. Il est totalement important parce que les questions migratoires ont occupé l'histoire du monde et vont continuer à occuper l'histoire du monde. Les questions migratoires sont au creuset pour les États européens du respect et de la structuration des droits fondamentaux. On n'en a pas encore vraiment parlé, mais la question du rapport à l'autre, la question de la manière dont on traite l'autre, dont on accueille, dont on accompagne, éventuellement aussi dont on contrôle les frontières et dont on éloigne les personnes, tout ceci doit se faire dans un cadre qui fonde les démocraties européennes, qui sont le respect des droits fondamentaux.
Mais Yves Pascoe, est-ce que la France est vraiment... quelle vision de l'immigration elle a encore récemment, le Premier ministre a listé les questions qui s'imposent selon lui, je vais les citer, qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce que ça donne comme droit? Qu'est-ce que ça impose comme devoir? Qu'est-ce que ça procure comme avantage? En quoi ça vous engage à être membre d'une communauté nationale? À quoi croit-on quand on est français? On en est là aujourd'hui?
Alors, en tous les cas, les représentants politiques, et notamment ceux qui aujourd'hui sont au gouvernement et ceux qui les ont précédés ces dernières années, en sont là. Les Français, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils en sont au niveau de la question migratoire, parce que la réalité, c'est que les Français, comme beaucoup, sont totalement perdus sur cette question-là. Aujourd'hui, on a braqué le levier totalement à droite, voire même à l'extrême droite. Il faut de l'ordre et de l'ordre. Quand aujourd'hui, les pratiques créent du désordre, mais aujourd'hui, les Français sont bien en peine face à une question qui est excessivement complexe. Tous les développements que nous avons eus préalablement, ne serait-ce que sur la question des OQTF, démontrent à quel point cette matière est technique. Elle est technique parce qu'elle est liée tout simplement à la vie, au séjour et parfois aussi à la vie et à la mort d'individus, de personnes. Donc on ne peut pas non plus résumer la question migratoire sur une punchline, et c'est ce qui est en réalité aujourd'hui l'espace médiatique et d'une certaine manière l'espace politique qui occupe la question migratoire, c'est qu'on va répondre de manière excessivement simple, voire même simpliste, à une politique qui est en réalité très importante, et elle est d'autant plus importante qu'elle nous définit nous-mêmes comme un miroir de la manière dont on traite les autres.
Ben Pierre-Henri, finalement, on arrive à la fin de notre émission, il nous reste 2 minutes, mais est-ce qu'il faut changer la loi? La réponse est oui, puisque la loi actuelle n'est pas satisfaisante.
Non, mais il faudrait peut-être commencer par l'appliquer, et d'ailleurs, au passage, rappeler aussi au ministre de l'Intérieur, qui fait des sorties sur les plateaux de télévision, que souvent il se retrouve dans un corner, parce que tout simplement, il a oublié la propre loi qu'il a fait lui-même.
C'était fin 2023, mais entrée en vigueur 2024.
Voilà, qu'il a fait lui-même voter par un certain nombre d'amendements. Il n'y a pas de tabou sur la question de l'immigration, même si la question casquette français, je me souviens qu'elle a été posée dès 2008 sous Nicolas Sarkozy et le ministre de l'identité nationale. Et donc, on peut répondre tout simplement, c'est le partage de valeurs. C'est appartenir à une nation citoyenne.
Oui. Et la plupart... C'est une question, comme vous avez dit, qui s'est posée en 2009.
Ouais.
On est en 2025, ouais, 15 ans après. Donc, dans 15 ans, on va reposer la même question. On n'aura pas avancé.
À partir du moment où on instrumentalise cette question des migrations, on peut la reposer sans fin, puisque c'est non pas dans un but de rassemblement qu'on pose cette question, c'est dans un but de division. Et donc, et vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on pose cette question, vous avez un certain nombre de forces politiques qui aujourd'hui ont l'hégémonie culturelle, qui font tout pour diviser la nation.
Eh bien, le sous-titre à « Faut-il changer la loi ?», ce sera « Comment parvenir à dépolitiser ce débat pour vraiment répondre aux enjeux migratoires en France ?» Vaste question. Merci beaucoup à vous trois. Pierre-Henri, président de l'association France Fraternité, ancien directeur général de France Terre d'Asile. Anaïs Place, merci à vous.
Merci.
Avocate spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité. Et Yves Pascoe, docteur en droit public, expert et consultant en droit et politique migratoire. Merci beaucoup à vous trois. Merci à Florence Ponce et Arnaud Assoa qui étaient à la préparation de ce débat du jour. Claude Battista à sa réalisation. 18h58 ici à Paris. Dans un peu plus d'une minute, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Delgrange et le dossier qui sera consacré à ce qui fait la une de l'actualité ce soir, le chef historique du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui appelle à déposer les armes.
à suivre dans un peu plus d'une minute. Et puis, dans 30 minutes, ce sera Afrique Soir, la première édition, avec Sylvie Berruy qui est à mes côtés en studio pour présenter le programme. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain.
Alors, qu'est-ce qui est prévu ce soir ?
Eh bien, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo avec deux explosions à Bukavu lors d'un meeting du groupe armé AFC M23 auquel participait Corneille Nanga, figure de l'Alliance Fleuve Congo. Au moins 11 morts et 71 blessés selon des sources hospitalières. Le président Tshisekedi condamne un acte terroriste odieux et pour sa part, l'AFC M23 pointe du doigt Kinshasa. En Guinée, Ibrahima Kassori Fofana, condamné à 5 ans de prison ferme. Il a été le dernier Premier ministre du président déchu Alpha Condé. Il a été reconnu coupable d'enrichissement illicite. Et puis en Guinée-Bissau, l'opposition avait appelé à la paralysie du pays. Dès aujourd'hui, elle considère que le mandat du président Mbalo a expiré alors que celui-ci a convoqué des élections pour fin novembre. Enfin, Mohamed VI, le roi du Maroc, appelle, et c'est important, à ne pas sacrifier le mouton lors de la fête de la qui aura lieu en juin et qui est aussi appelée la Tabaski, en cause la sécheresse qui a fait chuter le cheptel.
Eh bien, on est à l'écoute, on vous retrouve dans 30 minutes.